le public le fasse ou que les publics le fassent à travers ces indicateurs-là, me choque absolument pas. Effectivement, on est dans l'ordre de la complémentarité, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, Chloé Delaporte.
Je vous en prie.
Et merci à vous, Sophie-Catherine. On vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. Mais pour l'heure, il est 13h et vous êtes sur France Culture.
Les Midis de Culture. Marie Sorbier.
De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Quoi de mieux pour commencer l'année 2025 que ces vers de Verlaine qui, dans son poème Art poétique, n'entendent pas donner une méthode, mais chantent son état d'âme, sa couleur personnelle, son interprétation des nuances. Et c'est bien d'interprétation que nous allons parler aujourd'hui avec vous, Alexandre Kantorov. Vous êtes l'un des plus grands pianistes reconnus mondialement. Vous avez seulement 27 ans et vous composez, disque après disque, votre art poétique à vous. Alerte, puissant, romantique et résolument contemporain. Bonjour Alexandre Kantorov.
Bonjour.
Alors, c'est une joie de commencer l'année avec vous. Peut-être avant de parler musique, est-ce que vous avez un rituel pour le 1er janvier, une musique qui vous accompagne particulièrement, ou est-ce que vous préférez le silence après la fureur de la veille?
En général, le 1er janvier, il y a besoin de beaucoup de silence. La tête, elle explose sinon. Mais j'ai pas beaucoup de rituels musicaux. En général, au contraire, je me laisse guider le plus possible par l'envie du moment. Surtout aussi, j'ai un rituel avant les concerts où j'écoute toujours de la musique. Et c'est pareil, j'essaie toujours de varier, de sentir ce dont j'ai besoin le jour même, donc on verra.
Votre dernier disque, Brahms Schubert, est sorti en novembre chez Bis Records. Vous revenez juste d'une tournée en Asie et vous commencez en ce début d'année une série de concerts. À la fin du mois, vous serez à Los Angeles, Houston, puis New York. Et pour les dates françaises, vous jouerez le concerto de piano numéro 4 de Beethoven à Strasbourg avec l'orchestre philharmonique en février, puis le concerto pour piano numéro 1 et numéro 2 en mars, ici même à l'Auditorium de Radio France, puis à Dijon. Vous parcourez le monde avec votre piano, seul ou accompagné d'un orchestre. Qu'est-ce qui se passe sous vos doigts quand vous êtes sur scène avec un public qui vous regarde? Est-ce que le son de votre instrument est influencé par la salle?
Bien sûr, d'ailleurs le même piano dans une autre salle, souvent on se fait avoir et on le reconnaît pas. C'est une sorte de balance fine qui s'installe entre l'impression de notre son sur scène qui renvoie à l'acoustique du lieu et qui change en même temps quand le public rentre aussi. On a même ces surprises à ce moment-là. C'est à la fois notre malédiction et notre plus belle bénédiction parce qu'on passe du temps à lutter et on a l'instant de magie qui peut opérer à des moments et donc on a cette curiosité et ce mystère qui fait que même quand on joue la même pièce dans différents endroits, on va forcément devoir s'adapter et donc par les limites imposées, découvrir de nouvelles choses et essayer de trouver un moyen d'être convaincant dans un autre lieu. Et ça c'est un des grands amours que j'ai pour ce métier.
Vous les sentez les regards des gens quand vous êtes en public?
Ça dépend. En général, les bons moments de concert, c'est des moments où soudain, j'oublie à la fois ce qui se passe autour de moi et j'oublie même ce que je suis en train de faire, où j'ai plus beaucoup de conscience et je laisse l'instinct de la musique, l'oreille guider plus que la tête. Et c'est ces moments-là où je sens que je suis le plus connecté et j'arrive du coup après à être plus convaincant auprès des gens, à vraiment plus les toucher. Si je commence à avoir trop de sensations et à entendre un petit peu trop, voilà, le bruit, le public, se penser à ce que je fais, en général, je me bloque et ça limite la musique.
Vous avez reçu une série impressionnante d'honneurs et de prix, impossible de tous les citer, mais quand même, en 2019, vous avez alors 22 ans et vous êtes le premier pianiste français à remporter le premier prix du concours Tchaïkovski ainsi que le grand prix, décerné seulement 3 fois auparavant dans l'histoire du concours. En 2024, vous recevez le Guillemot Artist Award, décerné tous les 4 ans. Vous êtes le premier français et le plus jeune à le recevoir. Tous ces prix, ce sont évidemment des reconnaissances internationales majeures, mais aussi peut-être une pression ou une responsabilité. Comment on vit et on travaille au quotidien auréolé de toutes ces médailles?
J'ai vécu ce moment le plus fort au moment du concours Tchaïkovski, où par l'histoire du concours, par les vraies légendes du piano qui ont gagné ce prix avant. J'ai ressenti vraiment ce poids juste après, où j'étais. En plus, c'était tout nouveau et autant je m'étais préparé pour le concours, je m'étais absolument pas préparé à l'après-concours et à ce déferlement de concerts, d'idées de nouvelles organisations, de pensées pour le futur. Qu'est-ce que je veux jouer dans 1 an? Qu'est-ce que je veux jouer dans 2 ans? Et oui, il y a ce vrai moment où on se sent un peu emporté dans une tempête et petit à petit, on arrive à se recentrer. Et donc, je sais que je suis un petit peu obligé pour mon état de santé mentale, de me couper justement des réactions aux récompenses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que...
Vous y arrivez, ça, de vous couper de ces récompenses-là? C'est pas facile, on vous le rappelle à chaque fois, je viens de le faire à nouveau.
Ouais, petit à petit, je pense, parce que sinon, je serais un jour sur deux en train de me dire je suis génial, l'autre jour, je suis horrible, qu'est-ce que je suis un mauvais pianiste, en fonction des retours des gens, donc j'ai besoin d'avoir un tout petit peu de distance, parce que j'ai l'impression que là où on est le plus convaincant en tant qu'artiste, c'est quand on fait quelque chose en pensant pas au retour, en pensant pas à la conséquence de ce qu'on est en train d'accomplir. On essaie juste de donner quelque chose sur le moment. Donc voilà, j'essaye. C'est pas parfait, mais j'essaye.
Alexandre Kantorov, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là?
On entend le troisième mouvement de la première sonate de Brahms dans le dernier disque que j'ai sorti. C'était la fin d'un cycle autour des premières sonates de Brahms. Elles sont parmi les œuvres les plus ambitieuses et les plus folles qu'il ait écrites. C'est vraiment sa première période où il tente et il expérimente énormément de choses. Et ce sont des grandes symphonies qui clairement dépassent les limites du piano, surtout les instruments de l'époque. Mais on sent, voilà, il tire toutes les possibilités, la limite. C'est pour ça qu'on a des œuvres qui sont denses et qui sont assez étranges. Ils ont peu de mélodies, elles ont peu de choses qu'on retrouve dans beaucoup d'autres sonates de cette époque. Mais voilà, elles ont cette immensité et ça me plaisait beaucoup de faire découvrir ce Brahms-là. Donc, pour chacune des sonates, je les avais placées dans un disque autour d'œuvres qui a, pour moi, compléter bien et me replacer Brahms au milieu d'autres compositeurs. Et là, ce dernier disque, il est combiné avec Schubert, la Wanderer Fantasy. C'est une manière de mettre les deux en parallèle, parce que je pense que c'est la Wanderer Fantasy de Schubert est un vrai calque et un vrai modèle pour Brahms. C'est une idée très romantique d'unifier quelque chose qui a des codes et une structure, une sonate, et de la transformer en une grande œuvre poétique d'un bloc. Et Schubert le fait à l'extrême, et Brahms l'a vraiment calqué et a utilisé ce modèle, même s'il reste plus classique dans la structure. Et voilà, c'est une œuvre qui me plaît beaucoup.
Qu'est-ce qu'elle représente, justement, la musique de Brahms, dans votre carrière à vous?
Beaucoup de choses. J'ai entendu très tôt ses œuvres. L'œuvre, on me demande de temps en temps c'est quoi mon œuvre préférée. Et j'ai du mal à répondre à autre chose que le deuxième concerto de Brahms. C'est une œuvre que j'ai découvert à 14 ans. Et elle me paraissait avoir la place parfaite du piano au sein de l'orchestre. C'était une symphonie où les deux instruments, l'orchestre et le piano fusionnaient. En même temps, des grands moments de musique de chambre, de variété, un chemin symphonique immense comme dans les symphonies de Beethoven. Donc, ouais, je trouve sa musique vraiment Elle embrassait beaucoup de choses. Elle embrasse aussi la musique de chambre. Elle a une sorte de place où elle est dans l'histoire de la musique, à la fois tournée vers le passé, la structure, la logique. Tout est construit à partir de très petites cellules rythmiques ou de motifs. Et tout s'organise naturellement autour de ça. Et en même temps, il y a la fluidité, il y a l'inspiration, il y a le romantisme et les tourments de l'artiste et du poète là-dedans, avec cette petite dignité contenue. Et voilà, je trouve Brahms a une très belle place centrale. Et tout ce qu'il a fait, comme il était très perfectionniste et qui virait toutes les œuvres qu'il n'aimait pas ou il empêchait leur publication, ce qu'on a, c'est assez magique.
Puisque vous parlez de perfectionnisme, votre professeur à l'École normale de musique de Paris vous demandait, je la cite, de jouer en couleur avec des teintes, un phrasé, de la respiration et des points-virgules. Est-ce que ce conseil vous est toujours utile aujourd'hui, Alexandre Kantorov?
Toujours, on a peu de paramètres au piano. On est loin d'un instrument à cordes qui peut contrôler le son autant qu'il veut, qu'il y a un archer qui permet de phraser et de pouvoir tenir une note aussi longtemps qu'il le veut. Nous, on est bloqué avec un instrument percussif et donc on doit essayer de tirer le maximum et donc on a l'attaque de la note et on a le temps qu'on prend entre les notes et une infinité de variations avec ça. Et ma professeure était très attachée à entendre le son très longtemps, à développer au maximum les possibilités, les variétés de sons, d'imaginaires et de couleurs. Et oui, j'ai encore ça et je la vois de temps en temps. Elle me redonne des coups de boost quand j'en ai besoin.
C'est grâce à son enseignement à elle que vous détachez les notes aujourd'hui ?
J'ai eu beaucoup d'enseignements et je pense que la grande chance c'est que j'ai eu ces professeurs au bon moment. En fait, j'ai eu Rena Cherechevskaya, la dernière professeure que je continue à voir encore. Elle est arrivée après la découverte vraiment de la musique en groupe au Conservatoire de Paris. J'étais avec un super professeur, Franck Bralet, qui voyait le piano comme une sorte de juste un moyen musical de se rapprocher de l'orchestre. Il voyait les choses en composition. Et c'est là où je découvrais la musique de chambre. C'est là où j'ai mangé le plus de musique. Et ensuite, Rena est arrivée pour aller en détail sur une interprétation, pousser la limite de ce qui était possible. Et elle a une forme de mysticisme où elle a un enseignement très concret. Elle sait comment on peut trouver les moyens dans son corps d'avoir le bon geste pour atteindre ce qu'on veut. Et en même temps, elle va être la première à parler de symbolisme, à imaginer que tous les compositeurs connaissent le symbole de certaines mélodies depuis Bach, que ça remonte au passion de Bach et qu'on peut retrouver une toile comme ça au travers du temps avec tous ces compositeurs. C'est peut-être faux, mais la volonté et l'amour de la musique que ça la provoque et la recherche qui en découle, c'est une grande partie de la source de l'interprétation.
La vitesse, donc, condition nécessaire à la virtuosité et à son pouvoir d'enchantement. En parlant des études d'exécution transcendante de Franz Liszt et plus précisément de Feu Follet, Jean Kelevitch revient au micro de Dominique Jameux sur cette idée de victoire effectuée par le virtuose de la mobilité sur l'immobilité. Dans la vitesse, le virtuose s'échappe de l'immobilisme. On écoute le philosophe, c'était le 5 juillet 1979 sur France Musique.
Dans Feu Follet apparaît l'autre victoire de la virtuosité, qui est la victoire de la mobilité sur l'immobile, sur l'immobilité qui nous rive au sol.
Une victoire pas sur le temps.
Sur la pesanteur, sur la lourdeur, la lenteur, toutes les forces qui nous empêchent de triompher dans l'ubiquité.
C'est une gageure et une illusion proche de celle du danseur.
Si vous voulez, de même que la danse est une lévitation par laquelle le danseur triomphe de la pesanteur, montre qu'elle n'existe pas, de la même manière, par la vitesse et dans la vitesse, dans la mobilité, dans les difficultés semées sur sa route également, le virtuose affirme son indépendance par rapport à toutes les formes qui le paralysent, qui le rivent au sol.
Êtes-vous d'accord avec cette vision de la virtuosité qui, pour Yankelevitch, on vient de l'entendre, est égale à la vitesse?
Il parle de cette impression de victoire et c'est une émotion qui est bien plus intéressante que simplement la vitesse. La vélocité, c'est qu'on apprend ça très tôt, mais la beauté de la virtuosité, c'est le danger, c'est la prise de risque, c'est voir quelqu'un aller se dépasser et sentir ce moment sur la ligne qui est tendue et effectivement à la fin ce triomphe. Et donc, j'ai toujours adoré l'idée de la virtuosité et je trouve que nos grandes compositions ont souvent fait état de virtuosité dans des choses peu communes, parce que ça ne veut pas forcément dire juste jouer vite et fort, ça veut aussi dire arriver à maîtriser tellement la technique qu'on arrive à rendre la pièce facile des fois. Il y a des pièces qui méritent d'être juste légères et qui sont redoutables et on ne doit absolument pas entendre la difficulté. Il y a des pièces au contraire où il faut plonger dans l'abîme vraiment du désespoir. l'histoire et que le public ressente cette douleur et cette intensité. Donc, c'est pour ça que je suis très content qu'il dépasse simplement le cadre de la vitesse.
Il parle aussi de la lévitation. C'est un sentiment que vous sentez parfois quand vous êtes sur scène, cette lévitation?
Bien sûr. Bah, rien que le poids des touches, en fait, on le ressent. Et même selon les instruments, il y a des instruments où on a l'impression d'être bloqué, d'avoir des poids sur les mains parce que les touches demandent plus de... Elles sont plus longues, le jeu est plus long, donc on a vraiment une impression de lourdeur parfois, il faut s'en échapper. Et l'adrénaline qu'on a pendant les concerts, des fois, c'est le seul moyen aussi d'arriver à échapper et de transcender certains passages. Donc oui, je suis d'accord. Ouais.
Vous parliez de vos mains, est-ce que vous voyez vos mains changer au fur et à mesure que votre carrière avance?
C'est joli de me demander ça. Je le vois, je sens que plus jeune, j'avais des mains qui allaient très très vite. Mais c'était du beurre. Souple, facile, mais aucun son, aucune tenue, aucun poids. Et donc, j'effleurais vraiment les touches. Et donc, souvent, il y avait des notes qui sortaient même pas, tellement c'était en surface. Et grâce à l'enseignement, grâce à mes parents, mes professeurs qui vraiment l'entendaient, bien plus que moi, de prendre le temps de construire un son, de prendre le temps d'affirmer sa main et de savoir creuser un son et d'avoir une richesse. Et donc je me bats encore contre cette nature-là, mais je sens que j'ai peut-être perdu un peu de cette souplesse et de cette facilité où les choses me paraissaient très évidentes jeune, mais je pense que ça m'a permis aussi de gagner une palette un peu plus riche de possibilités sonores.
Puisqu'on parle de vos mains, est-ce que vous travaillez physiquement vos interprétations là, puisqu'on parle de Brahms ou de Schubert, est-ce qu'elles demandent, ces musiques-là, une gestuelle particulière, une position du corps particulière?
Oui, elle est différente pour chaque pianiste et on le trouve en fait selon le... Et ça dépasse même simplement le cadre de Schubert, où on le joue comme ça, Brahms on le joue comme ça. Chaque pièce qu'on aborde, on tâtonne, on commence à avoir des idées. Et c'est important que les idées, elles passent aussi pas par l'instrument, qu'elles viennent de notre créativité intérieure et de notre oreille interne. On se dit, bon, qu'est-ce que cette œuvre devrait apporter? Comment je l'imagine dans ma tête? Et ensuite, d'essayer de le retrouver au piano. Et petit à petit, on commence à trouver des réflexes et le corps, avec l'expérience, sent les changements qu'il doit apporter pour obtenir quelque chose. Et donc, si on utilise l'oreille comme un guide, on tire son corps vers quelque chose qui y arrive petit à petit. Et donc, à la fin, on obtient une sorte de mémoire musculaire qui fait que pendant le concert, si ça se passe bien, on est libre de lâcher prise et de pas réfléchir à ce qui est en train de se passer parce que le corps a vécu assez de fois le chemin et le voyage de cette pièce pour le reproduire et nous permettre d'être un peu plus libre et d'improviser sur le moment des choses auxquelles on pensait pas.
Vous aviez auparavant le goût de faire redécouvrir des œuvres peut-être moins connues. Là, dans ce disque-là, vous vous attaquez à des pièces majeures. D'où vient ce changement de direction?
En fait, j'ai jamais eu une sorte de chemin particulier ou avec une revendication particulière. J'allais vers des œuvres qui me paraissaient belles et naturelles. Peut-être que aussi c'était les premiers disques de s'apporter une sorte de confiance et une légitimité. Mais pourquoi on fait un disque? Parce que c'est pourquoi on ferait un disque quand il y a 400 versions d'une œuvre, à moins d'avoir une vraie conviction et quelque chose à dire. Et
vous avez répondu à cette question. Vous savez aujourd'hui pourquoi vous faites un disque?
Déjà, je trouve c'est une part très égoïste, mais c'est une des plus belles sessions de travail qu'on puisse faire. Donc, il y a un apport incroyable pour notre art et notre interprète, qu'on peut pas reproduire chez soi, on peut pas reproduire même avec toute la volonté du monde en travail. Ce moment, on est deux, trois jours bloqués avec son ingénieur du son, l'accordeur, et on se concentre et on teste énormément de choses, on cimente, on doit faire des choix. C'est une des plus belles sessions de travail. Donc, déjà, rien que pour ça. Et puis, ça me prend toujours beaucoup de temps avant de me sentir confiant de faire un disque. C'est pour ça que j'en sors peu et que je les sors souvent au bout d'une longue tournée où je joue beaucoup de fois les œuvres avant de les enregistrer. Donc oui, ça me prend du temps et je choisis quand même des pièces où j'ai l'impression que je vais avoir quelque chose à apporter et ça au début de prendre des œuvres qui ont moins été enregistrées me donnait une sorte d'espace créatif où je me disais je vais peut-être avoir plus facilement ma place et aujourd'hui je découvre aussi j'avance dans le chemin, j'avance dans le répertoire et voilà, je prends toujours autant de temps, mais je m'attaque aussi à ces chefs-d'œuvre.
Thank you.
Après Brahms, Schubert, même question, Alexandre Kantorov, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là?
On vient d'entendre, comme Brahms, le scherzo, le troisième mouvement de la Vendera Fantasy de Schubert, toujours dans ce disque que je viens d'enregistrer. C'est une œuvre, la Vendera Fantasy, qui est tellement unifiée. On entend en fait les mêmes idées mélodiques qui sont avec des rythmes différents au fur et à mesure des mouvements. Et il y a ce chœur qui est le second mouvement, qui est le chœur de la pièce, qui est une sorte de texte mis en musique, un leader, et ses variations. C'est donc mis un texte en variation, et c'est pareil pour la sonate de Brahms. Les deux partagent ce chœur qui est une pièce poétique, littéraire, mise en musique, en variation. Et voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre.
C'est une œuvre, on vient de l'entendre, hein, acrobatique, une course sur le piano. Est-ce que maîtriser cette technique, c'est un exercice qui vous plaît ?
Bien sûr. De toute façon, quelle qu'elle soit, en fait, c'est génial de se sentir tiré par une envie musicale et par un idéal de ce qu'on aimerait obtenir et d'essayer de trouver les moyens d'y arriver. La Vendera Fantasy de Schubert, c'est pas simplement qu'elle est acrobatique, c'est qu'elle est assez, les pianistes, je pense, savent de quoi je parle, elle est assez bizarrement écrite pour piano, elle est pas très naturelle. C'est-à-dire qu'un compositeur comme Chopin, Rachmaninoff, c'est bien plus comment trouver dans les mains du pianiste le geste naturel et donc nous aide. Ici, Schubert, il nous aide pas du tout. Il a la musique simplement qu'il veut entendre et il faut qu'on se débrouille pour y arriver d'une manière ou d'une autre malgré des choses peu évidentes.
Mais donc, il y a une grande part créative qui est réservée au pianiste dans cette œuvre-là?
Je pense et je suis heureux parce que c'est notre part d'expression. On est des interprètes comme des acteurs, donc on est au service d'un texte et je compose pas, donc la seule liberté que j'ai, c'est justement d'oser faire un choix et d'essayer de comprendre et de donner ma vision de l'esprit d'une œuvre, d'essayer de l'éclairer le mieux que je peux et ensuite d'en exagérer, de le rendre audible et d'essayer de connecter cette œuvre et qu'elle atteigne le cœur des gens. Et donc c'est toute notre vie, ça me passionne.
Mais dans une œuvre comme celle-là, comment on fait pour équilibrer l'instinct et le travail?
On passe beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps aussi sans piano, on écoute d'autres choses de Schubert, on essaie de se faire une vision mentale, on essaie de l'éclairer, c'est pour ça qu'on analyse l'harmonie, on essaie de rechercher des choses dans les lettres de Schubert, on essaie de se donner des arguments en fait pour ses choix et de s'éclairer du mieux qu'on peut. Après, on est tous impuissants, même les compositeurs eux-mêmes ont un regard biaisé par rapport à leurs propres œuvres. On l'entend quand les compositeurs jouent leurs propres œuvres, ils la jouent de manière très différente de ce qu'ils ont écrit. Même au fur et à mesure du temps, ils la transforment dans leur vision. Il y a Stravinsky, à la fin de sa vie, il veut rechanger l'Oiseau de feu pour coller avec sa nouvelle vision de la musique beaucoup plus néoclassique et précise. Donc, à partir du moment où l'œuvre est écrite, elle appartient à tout le monde et c'est à chacun d'être en bonne et due conscience de donner assez d'efforts et assez de travail pour se sentir légitime de la donner. Et on est tous confrontés à ça. Et avec l'expérience, on avance plus dans une voie et ensuite on change, on bascule. Et c'est tout ce chemin qui fait que les gens continuent de venir au concert écouter des œuvres qu'ils ont entendues pas mal de fois.
Avant de créer votre propre interprétation, est-ce que vous vous inspirez de tous les pianistes qui l'ont joué avant ou au contraire, est-ce que c'est table rase et vous essayez de partir de zéro?
De toute façon, c'est des œuvres là, comme la Vendée en Fantasy, qu'on a déjà entendu, donc on part toujours avec
une mémoire.
Des idées, une mémoire. J'essaie vraiment de me détacher de ça. Particulièrement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à disposition absolument tout. On a à la fois tous les disques, on a les plus beaux lives pirates que des gens ont enregistrés et qu'ils mettent maintenant sur YouTube. Donc on retrouve vraiment tout ce qu'on veut. Et au milieu de ça, c'est encore plus dur, je trouve, d'avoir sa vision. C'est quelque part presque vertigineux d'avoir autant de versions différentes et de pouvoir les comparer aussi vite. Donc oui, je m'interdis de les écouter trop pendant un moment et j'essaye de justement faire en sorte que quand j'écoute de la musique, ça soit un moment rare comme à l'époque où on allait au concert et c'était un moment précieux et du coup on allait le garder avec soi. Donc moi qui écoutais énormément de musique, maintenant j'essaie vraiment de faire attention à ce que ça soit un moment marquant dans la journée que je puisse garder des choses avec moi après.
Pour finir notre entrevue, Alexandre Kantorov, est-ce qu'il y a des œuvres qui nécessitent d'être plus âgées pour les interpréter ?
Non, surtout je pense qu'en plus les œuvres qu'on dit très matures, les dernières œuvres de Beethoven, les dernières œuvres de Bach, des choses comme ça, on se dit bon, il faut une maturité. J'ai l'impression que la maturité, elle vient que parce qu'on les a commencés jeunes, et même si on les a pas donnés en concert, on a vécu avec ces œuvres au long de sa vie. Donc peut-être que quand on arrive effectivement à un âge où on les a vraiment réfléchis, on se sent mature de les donner, mais la maturité, elle arrive pas quand on commence une œuvre à 50 ans et qu'on ouvre la partition la veille. Donc non, je pense que c'est juste le chemin qu'on prend qui doit être long avec certaines œuvres. Et puis c'est passionnant en fait de voir une dernière œuvre jouée par quelqu'un de jeune et de voir ce qu'il en tire, parce que c'est tout comme deux personnes avec de la maturité le joueraient avec un regard tellement différent. Voilà, c'est ces regards là et ces éclairages différents qu'on a besoin d'entendre. Et la chance qu'on a avec les grands chefs-d'œuvre, c'est qu'elles sont des chefs-d'œuvre parce qu'elles laissent tellement de choses, elles sont assez riches pour soutenir autant d'interprétations différentes.
En route vers d'autres cieux, il faut changer d'horizon, voyager. Ainsi, tu échapperas facilement à tout souci. Tel est le programme pour ce début d'année. Mais pour l'heure, les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Alexandre Kantorov d'avoir commencé l'année avec nous. On peut écouter votre dernier disque, Brahms Schubert, paru chez Bis Records, et venir vous applaudir en concert. Toutes les dates et références sont à retrouver sur la page des Midis de Culture. Cette émission a été préparée par Aïssa Touendoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vigné, Lise Ripoche et Johan Ossilio. Elle est réalisée par Brice Garcia avec, à la prise de son, Jean-Guy Lormège.
Écoutez France Culture.
La science CQFD. Cette semaine, on entre en fanfare en 2025 avec une semaine spéciale fête, une semaine musique et sciences.
Natacha Triou.
On donne le la avec un premier épisode sur la voix et sur les voix de synthèse. Puis, on monte en gamme avec les liens intimes entre musique et astronomie pour écouter la mélodie des astres. Et on écoutera les neuroscientifiques étudier notre cerveau, cet organe mélomane.
La science CQFD, du lundi au jeudi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Aujourd'hui, le Book Club ouvre l'année par un récit d'hibernation.
Marie Richeux.
L'auteur de bande dessinée Jean-Marc Rochette livre le récit de ses hivers isolés dans un hameau reculé de l'Oisan. Entre mars 2020 et février 2023, l'auteur a affronté la solitude et les rigueurs de la montagne, routes coupées, avalanches et survie quotidienne face à une nature aussi sublime que menaçante. Il est notre invité.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Demain, je recevrai l'écrivain Pascal Quignard pour son nouveau roman « Trésor caché ». Mais tout de suite, place aux pieds sur terre.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Souvent, ce sont des survivantes de viols, des militaires ou des accidentés, des personnes par définition traumatisées, qui sont victimes de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. La perte totale de souvenirs est alors un mécanisme de protection du cerveau, submergé par des émotions trop extrêmes. Dans un genre très différent, il y a aussi ces blackouts temporaires des fêtards qui suivent des soirées trop arrosées, comme c'est peut-être votre cas aujourd'hui, même si je ne vous le souhaite pas. C'est d'ailleurs la défense du comédien Nicolas Bedos qui dit avoir tout oublié des agressions sexuelles qu'il est accusé d'avoir commises et pour lesquelles, je précise, il est encore présumé innocent. Il dit en effet avoir tout oublié, le trou noir absolu, mais par contre il n'a pas oublié qu'il est innocent, ironise le média en ligne Mediapart. D'autres cas d'amnésie, enfin plus documentés, sont aussi abondamment décrits à la suite des concerts de Taylor Swift. Certains fans se réveillent au lendemain de ces méga shows qu'ils et elles attendent parfois depuis des mois, voire des années, sans le moindre souvenir de cette soirée historique. Le magazine Elle convoque un psychiatre au Jersey Shore University Medical Center pour expliquer ainsi le phénomène. Le trop-plein d'excitation est vécu par le cerveau comme du stress et cela impacte sa capacité à encoder les souvenirs. Tout de suite dans les pieds sur terre, on vous parle donc d'amnésie avec une histoire d'amour et d'amnésie et tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Je m'appelle Nora Telouni, j'ai 37 ans, je vis à Genève en Suisse. Je suis photographe pour un quotidien suisse qui s'appelle Le Temps. Alors j'ai rencontré Youssef en 2017. Il faisait un concert pas très loin de chez moi. Il fait de la musique algérienne et on a sympathisé à la fin du concert. On s'est échangé nos numéros et 2-3 jours après, je devais commencer un projet. Je faisais un workshop de photo dans le cadre de mes études. Un projet sur une thématique que je traitais déjà depuis un moment, qui est la question de l'immigration et de l'exil. Et donc, je lui ai demandé d'être mon modèle, enfin de photographier pendant plusieurs jours pour raconter un peu sa vie, sachant qu'il arrivait d'Algérie. Il venait s'installer en Suisse depuis, je crois, 6 mois, 1 an. Alors, il me dit « Oui, je travaille au bateau demain, si tu veux venir faire des photos au bateau. » Et là, tout d'un coup, j'avais un peu une image de... Bah voilà, de l'immigré algérien, musicien, qui travaille sur un bateau. Et je me suis dit, j'ai une histoire super à raconter. Et voilà, enfin c'est plus ça à la base qui m'avait attirée. Donc je l'ai suivi pendant une semaine chez lui, sur son lieu de travail, lors de ses répétitions de musique, de ses concerts. Enfin, j'ai fait une sorte de mini-reportage sur lui. Et puis en fait, à force de le photographier, à force d'essayer de trouver le bon angle, la bonne lumière qui tombait sur son visage, de retoucher aussi les images, enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, de passer tout ce temps à le regarder, quoi. Enfin, c'est quelqu'un hyper généreux, en fait, et d'une gentillesse à un peu presque une sorte d'innocence, en fait, et assez romantique. Et je me suis sentie en confiance et en sécurité immédiatement. Donc, on a été tout de suite très amoureux. Et puis, je sais pas, au bout de 3 semaines, 1 mois, on était ensemble. Voilà, ça s'est fait assez vite et naturellement. Enfin, genre, au bout d'une semaine, il avait les clés de chez moi. On était tous les jours ensemble. Mais on a eu 2 mois ensemble. Et puis après, y a eu l'accident, quoi. Je me souviens que c'était un mardi. On avait dormi ensemble le lundi soir. Le mardi matin, on s'est réveillés, on s'est dit bonne journée à ce soir. Et en fait, le soir, moi, je buvais un verre avec une copine et je lui ai écrit un message dans la soirée en mode je finis dans 1 heure ou 2, on peut se retrouver. Là, j'ai pas de réponse. Au début, je m'inquiète pas. Et puis quand même, au bout de 2-3 heures, je me dis, bon, c'est un peu bizarre quand même. Et là, je reçois le coup de fil d'un de ses meilleurs amis, qui vient aussi de Sétif, donc de la même ville que lui en Algérie, et qui me dit, Youssef a eu un accident de vélo. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il a eu un accident, il est à l'hôpital. Donc, je pars à l'hôpital direct avec ma copine qui m'accompagne. Et j'arrive aux urgences, en fait. Et je dis, voilà, je viens voir Youssef Kasmi, il a eu un accident de vélo, il est là. Et l'infirmière fait sa recherche et elle revient vers moi avec une tête d'enterrement. Et elle me dit, je suis désolée, je ne sais pas ce qui arrive à votre ami, mais il est aux soins intensifs, en réanimation. Donc là, dans ma tête, je me dis, OK, ça, c'est sûr que c'est très, très grave. Bref, je vais aux soins intensifs et... au bout d'un moment, les médecins viennent nous parler, donc les neurochirurgiens, les infirmiers, etc. Et ils nous disent qu'il a eu un trauma crânien sévère, une fracture du crâne, hémorragie interne, qu'ils ont dû l'opérer, faire une neurochirurgie, mais qu'ils sont plutôt optimistes parce qu'ils ont pu arrêter l'hémorragie rapidement et qu'il est encore jeune et qu'a priori, il va bien s'en remettre, quoi. Là, on a quand même pu aller le voir dans sa chambre. Donc, Youssef était dans le coma artificiel en attendant qu'il récupère un peu et qu'il puisse le réveiller. Et c'est trop bizarre parce que il avait une tête d'enfant, quoi. Il y avait quelque chose dans son visage et dans ses yeux et même dans son attitude qui ressemblait vraiment à un enfant. C'est comme s'il avait régressé, quoi. Plus l'énorme cicatrice sur la tête, il avait 52 agrafes... Donc, oui, c'était assez impressionnant. Et ce truc de l'âge qui paraissait si jeune, c'était très bizarre, quoi. Ouais. Donc, là, il est resté 6 jours dans le coma artificiel. Moi, j'allais le voir tous les jours à l'hôpital. Les médecins le réveillaient toutes les 2 heures pour vérifier qu'il y avait toujours une activité cérébrale et puis voir aussi si simplement il pouvait le sortir du coma, quoi. Et en fait, à chaque réveil, en fait, il était simplement hyper agité. Quand on essayait de lui parler, il n'entendait pas. En tout cas, il réagissait pas. Il n'y avait pas de communication possible, quoi. Même pas. C'est-à-dire que même si on lui parlait, il tournait même pas la tête. Il nous voyait pas. Et il essayait simplement de s'arracher les tuyaux. Donc, il fallait le rendormir. Quand on l'a réveillé, c'est un ami à lui qui était là-bas et qui m'a donc tout de suite appelé. Moi, j'étais en train d'aller à l'hôpital et il m'appelle, il me dit « Nora, c'est bon, il est réveillé ». Et moi, je me dis « Mais en fait, j'y crois pas, quoi ». Enfin, c'était un énorme soulagement et avec aussi un peu l'appréhension de « Ok, il était réveillé, mais dans quel état ?» Donc, j'arrive à l'hôpital. À ce moment-là, ça faisait 2 heures qu'il était sorti du coma artificiel. Je rentre dans la chambre. Et il me regarde, il est resté le regard fixe sur moi, et moi je me suis déplacée autour du lit, et il m'a suivi du regard en fait. Et donc ça a été pour moi le premier contact, c'était la première fois où je me suis dit « Ah, il est en train de revenir ». Parce que jusque-là, je désespérais un peu, je me disais « Mais il va jamais revenir à lui, en fait, on l'a perdu, quoi ». Bon, il parlait pas, hein. Mais il me regarde et moi je m'approche de lui et il me fait un geste, enfin il s'avance vers moi pour m'embrasser. Hyper naturellement, enfin comme s'il n'y avait jamais rien eu, enfin comme si on était le mardi soir, le soir on devait se retrouver après mon verre avec ma copine, quoi. Donc il y a eu ce bref moment presque naturel, ce bisou pour me dire bonjour, puis après il était de nouveau complètement dans les choux en fait, enfin il savait. Où il était, il savait pas qui j'étais, il savait rien, il arrivait pas à parler. Bon, il était à la ramasse, quoi. Enfin. Donc les médecins, ils essaient tout de suite de retrouver un contact et on se rend compte que c'est pas possible parce que déjà on lui parlait et qu'on comprenait pas vraiment ce qu'on disait. Lui-même, il essayait de dire des choses, mais on comprenait absolument rien de ce qu'il disait. Il parlait essentiellement d'ailleurs en arabe, il parlait plus trop français. Et en fait, il disait simplement des mots qui n'avaient aucun sens, quoi. Donc, on ne pouvait pas communiquer avec lui. Et puis, quand petit à petit, il a commencé à comprendre un petit peu ce qu'on lui disait, par exemple, les médecins lui demandaient « Comment vous appelez, monsieur ?» Bon, il a bugué un peu, il a réfléchi, puis il a fait « Karim ?» Genre, en mode, j'essaye un truc, quoi. Puis, comme, je pense, comme il entendait souvent le nom Karim, vu que son frère venait le voir régulièrement, parce que c'est le nom de son frère, Karim, il a dit Karim. Puis, on disait, ben non, en fait, vous appelez Youssef. Ah bon? Ça lui passait complètement au-dessus, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas de conscience, mais en plus, quand on lui demandait on est où, il répondait Constantine. Systématiquement, Constantine, qui est une ville en Algérie, pas très loin de sa ville d'origine à lui. Donc, il était persuadé qu'on était en Algérie, quoi. Donc il voyait ses potes algériens qui étaient là tous les jours. Moi, il avait décidé que j'étais aussi algérienne et que je venais de Chelrom. Donc voilà, il était dans son petit univers algérien. Chelrom, c'est une ville où il a passé parfois des vacances quand il était enfant, parce qu'il y a une partie de sa famille qui est là-bas. Il avait complètement oublié qu'on était en Suisse, et quand on lui parlait de la Suisse, la Suisse, il comprenait pas de quoi on lui parlait. Donc on avait appelé sa mère, qui était en Algérie, pour qu'il puisse se parler. En fait, il n'avait même pas reconnu sa mère au téléphone. Bon, je ne le vivais pas très très bien. Enfin, c'était une période hyper difficile pour plein de raisons. La raison principale, c'était plutôt de l'incertitude qu'il retrouve, lui, son identité, en fait. Il, à ce moment-là, il avait 26, 27 ans, enfin, il était vraiment tout jeune, et je me disais, mais c'est trop injuste que sa vie soit détruite maintenant. Il faut lui donner une chance qu'il puisse retrouver sa vie. Et une des choses que j'ai faites, c'était de effectivement rentrer un peu dans son univers, de ne pas essayer de le corriger. Et donc, c'était comme un pays imaginaire, quelque part, dans lequel j'avais une place pour Youssef. Et de me dire, ok, ben, du coup, c'est quoi ma place dans ce pays? Alors après, c'était des discussions qui avaient un peu ni queue ni tête. C'était tout d'un coup, il me racontait qu'il travaillait sur un bateau à Annaba. Annaba, c'est une ville côtière en Algérie. Donc là, je pense qu'il avait mélangé le bateau où il travaillait à Genève et qu'il l'avait amené à Annaba, quoi. Et donc je lui disais, ah, mais tu fais quoi sur le bateau? Tu travailles avec qui? Et tu vis où? Il me disait, ah non, je vis à Chelrom et je vais à Annaba juste pour le travail. Je fais, ah, je dis, ah, mais alors tu fais les trajets tous les jours. Enfin, voilà, je rentrais vraiment dans son histoire. Et petit à petit, parfois, j'ai essayé de ramener un petit peu d'éléments plus réels. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait que le temps, en fait, qui pouvait le faire revenir. Des fois, les gens lui demandaient c'est qui, elle, machin. Puis alors, il répondait des trucs. Un jour, j'étais l'infirmière. Un jour, j'étais la sœur. Un jour, quand on lui posait la question qu'il devait mettre un mot, il n'était pas capable de dire, mais dans les gestes, il me prenait la main, il m'embrassait, il me serrait dans les bras. Enfin, il était hyper affectueux avec moi. Enfin, il avait l'air amoureux, en fait. Mais pour autant, il ne savait pas qui j'étais, quoi. Un jour, je lui ai montré des photos de chez moi. Et il a reconnu l'appartement, mais il l'a reconnu hyper bien. Il m'a dit « Ah bah oui, je connais cet appartement ». Il m'a décrit l'appartement, il m'a dit qu'il y avait des cactus et qu'il m'a parlé du garage à vélo. Enfin, il se rappelait hyper bien, même du quartier et tout, quoi. Et il me dit « Je me souviens parce que j'allais souvent voir une fille dans cet appartement et c'était trop bien, on était trop bien et on passait beaucoup de temps là-bas ensemble et c'était tellement bien des fois qu'on sortait pas ». On ne ressortait pas, on restait dans l'appartement tous les deux et tout. Et puis je lui dis, mais cette fille, c'est qui? Ah, je ne me souviens pas. Il se souvient de tous les détails, il se souvient de combien il y avait de cactus dans l'appartement, mais il ne se souvient pas de la fille qui habitait dans l'appartement, quoi. Et donc, j'insiste un tout petit peu, je dis, mais tu ne te souviens vraiment pas d'elle? Est-ce que tu te souviens au moins, je ne sais pas, si elle était blonde ou brune, ou un détail, un truc, tu vois? Ah non, non, aucune idée, mais vraiment aucune idée, quoi. Et donc, je tente un dernier truc. Je lui dis, mais la fille de cet appartement, là, dont tu ne te souviens pas, elle s'appelle Nora. Et il me regarde avec un air, mais vraiment genre, mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle fait, ah non, non, je crois pas. Non, non, ça ne me dit rien du tout. Et je me dis, bon, Eh ben, tant pis, essayez pas plus. Ça, c'est évidemment un peu des coups durs, quoi. Je me dis, bon, c'est toujours pas. Et le lendemain, je lui remontre des photos de l'appartement et il me dit, ah, c'est chez toi. Là, je me souviens, c'est chez toi, c'est ton appartement. Et donc, en fait, en 24 heures, il avait refait le lien entre passé et présent, quoi. Mais c'était la première fois où il y avait comme un pont entre la Nora de l'appartement et la Nora d'aujourd'hui, je crois. Ses souvenirs sont revenus de manière chronologique, à peu près. Donc, il s'est d'abord souvenu de l'Algérie, de son enfance, de ses parents ou de ses amis d'enfance. Voilà, et la Suisse est revenue à la fin parce que ça faisait seulement un an qu'il était là. Et en fait, il avait besoin de revoir les choses et de revivre les choses pour vraiment s'en souvenir. Et donc, en sortant de l'hôpital et en revoyant Genève, et en... enfin, c'est là aussi que les choses elles se sont vraiment réimprimées, je pense. Et donc, il est sorti de l'hôpital, il est venu habiter chez moi. On a été comme un peu parachutés, comme dans une situation extrême, où finalement, le couple, il est un peu passé... Enfin, le couple au sens d'une rencontre quand même assez récente, où on se découvre, où on... ça se fait tranquillement, on apprend à se connaître, où c'est léger, où on part en vacances, et puis... ouais, on n'a pas eu ça. On a tous été dans une réalité hyper dure et à devoir gérer sa santé. Et ça s'est fait très progressivement et ça se faisait un peu par étapes, par paliers, mais aussi avec parfois des retours en arrière. Où tout d'un coup, j'avais l'impression qu'on avait passé un cap et puis le lendemain, il était de nouveau plus vraiment là. Ça oscillait quand même pas mal entre il se rappelle pas vraiment, on est connecté, on n'est pas connecté. Effectivement, il y avait tout d'un coup des sortes de moments comme ça, comme des petits éclats où c'est de nouveau le Youssef que j'ai connu, où c'est... Avant son accident, ça arrivait souvent que je lui dise, comme une expression, je disais « mais t'es fou ». Et il me répondait toujours « oui, fou de toi ». Et plusieurs mois après l'accident, même quand il se rappelait de qui j'étais, etc., quand je lui disais « t'es fou », il me répondait « rien ». Ou il me disait « mais non, je suis pas fou ». Et un jour, mais je pense 4-5 mois après... hein, il m'a ressorti cette phrase « oui, fou de toi ». Et là, ça m'a fait un truc. Mais je pense que j'ai dû pleurer, d'ailleurs. Et donc, voilà, je me suis dit « c'est bon, on est de nouveau complices, quoi ». Ouais. En 2019, on est allé en Algérie ensemble. Tout d'un coup, j'étais hyper curieuse quoi, de voir ce que c'était cette Algérie où il a pensé qu'il était et où j'avais fait semblant de croire qu'on y était. Fin... Et un des trucs que j'ai eu envie de faire, c'était d'aller voir Chelrom, ma ville d'origine. J'avais vraiment envie de comprendre, enfin de voir cette ville où il avait pensé qu'on s'était rencontrés. Et d'aller là-bas, c'était aussi une manière peut-être de comprendre... ce qu'il avait vu et ce qu'il avait imaginé pendant cette période où on évoluait dans des réalités complètement différentes, lui et moi. Et c'était une manière aussi de reconnecter avec cette partie-là qui m'avait complètement échappée, en fait.
Je m'appelle Youssef, j'ai 33 ans, je suis algérien, j'ai grandi en Algérie. Jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai quitté l'Algérie. C'est ma vie artistique qui m'a mené à Genève. J'ai créé un groupe musical et j'ai commencé à travailler à une association qui s'appelle Bateau Genève. C'est un bateau qui est au bord du lac Léman. Et c'est une association qui accueille les personnes démunies ou des SDF le matin pour un petit déjeuner dans le bateau. Du coup, je faisais partie de l'équipe là-bas qui s'occupait de ces personnes. Je Je me rappelle très bien de ma rencontre avec Nora. C'était le 1er septembre 2017, lors d'une soirée concert que je faisais avec mon groupe. Et puis après le concert, on a fait connaissance. Elle est issue d'origine syrienne, suisse. Donc la partie syrienne me posait des questions quand même. Comment elle a passé son enfance, etc. Et puis la beauté, et puis j'étais attiré en tout cas. C'était comme un coup de foudre, on peut dire. C'était intense au début, en tout cas, je dormais chez elle. Donc on passait la soirée réveillée, bien sûr. Bah, il y avait plein de trucs à raconter, il y avait plein de trucs à découvrir sur ma vie, sur sa vie. Du coup, sans s'en rendre compte, bah, il était déjà 6h du matin, je travaillais à 7h30. Donc j'avais le temps de dormir à peine une heure. Voilà. Et puis ce jour-là, donc le 27 novembre, mon vélo avait un problème avec le frein. Un ami avait aussi un vélo, mais c'était un vélo différent que le mien. J'ai demandé à qu'il m'en prête pour que j'aille au travail demain, le temps que je répare mon vélo. Il était d'accord. Donc j'ai utilisé le vélo, je suis allé au travail. Et c'est là que le drame s'est passé. Pour me rendre au travail, je devais passer par des rails de tram. Et là, le vélo, bah, l'ancien, il rentrait pas dans les rails de tram. Et celui-là, comme il avait des petits roues, c'était un vélo de course. Le vélo est rentré dans les rails de tram. J'ai perdu contrôle et je suis tombé. J'ai des souvenirs jusqu'à quand j'ai pris le vélo. En tout cas, je ne me rappelle pas quand est-ce que j'ai fait l'accident, comment je suis tombé sur ma tête, sur mon épaule. En tout cas, tout ça, j'ai perdu. Après, j'étais aux soins intensifs, j'ai eu une semaine de coma artificiel. C'était une lumière un peu bizarre, j'ouvrais les yeux comme ça, pour voir. C'était plein de tuyaux, des appareils, du sang un peu. Je me rappelais de rien. Après, j'ai changé de soins intensifs, je suis parti dans une autre chambre. Dans cette chambre-là, j'étais attaché avec une ceinture. Et c'était terrible pour moi, je me réveille. Et j'ouvre les yeux et je vois les gens qui rentraient en fait en blouse. Rentrer, sortir. Et puis la nuit, donc, automatiquement, ils éteignent la lumière pour qu'on puisse dormir. Et puis moi, j'essaie de fuir, parce que je me sens un peu comme en danger, comme s'ils allaient venir vers moi pour me voler mes organes. Donc j'avais vraiment peur. J'essayais de ne pas faire du bruit, essayer de fuir, d'ouvrir un peu avec quoi ils m'ont attaché. En tout cas, c'était vraiment terrible. Ensuite, ils m'ont déplacé parce que mon état s'améliorait. C'est là que les souvenirs ont commencé à réapparaître. Cette troisième chambre, je me rappelle en tout cas de l'arrivée de mon ami d'enfance. Et je me rappelle aussi de mon demi-frère. Karim, il était là. Et je me rappelle qu'il était un peu fâché quand je dis pas « on est à Genève, mais on est à Chalrom ». Le lien qui me faisait penser à Chalrom, c'est quand j'ai eu un accident. J'avais 22 ans, j'ai eu un accident avec ma grand-mère à cet endroit-là. Donc elle est décédée sur le moment. Je me suis senti un peu fragile, je me suis senti un peu fautif parce que je l'ai pris avec moi et puis je l'ai perdu avec moi, donc je conduisais, donc c'est une responsabilité quand même. Et j'étais hospitalisé à Constantine et à Chalrom. C'était ma dernière hospitalisation, c'est pour ça que je répondais toujours que j'étais à Constantine. C'est les dernières images qui me restaient dans le cerveau. Après, je me rappelle qu'il y avait une fille inconnue qui venait me voir, ou je gardais pas des souvenirs, en fait, en lien avec elle. Et à l'intérieur de moi, quand même, je sentais que c'était une personne assez importante pour moi. Jusqu'à un jour, comme ça, je me suis réveillé, et puis je me rappelle qu'elle est venue, avec un sac, elle a posé son sac, avec une veste, elle a enlevé sa veste, etc. On a commencé à parler, et puis c'était comme si je la connaissais. Je ne l'ai jamais oublié, c'est comme si un jour elle est rentrée et voilà, c'est Nora et puis voilà, point. Après que j'ai récupéré ma mémoire, j'ai quitté l'hôpital de rééducation. Là, j'étais face à la réalité, donc tout était nouveau pour moi. des escaliers, ou comment ouvrir la porte, comment ouvrir le robinet, comment que ça soit cuisiné, repassé, des trucs comme ça de base, j'avais oublié. Et puis à chaque fois que je touchais à quelque chose, à chaque fois que je voyais quelque chose, je risque de faire des dégâts, je sais pas, d'utiliser la cuisine, de cuisiner, de... Je me rappelle qu'une casserole, c'est utilisé pour faire des pâtes. Après, comment faut faire pour programmer ça et faire petit à petit, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai tout réappris, ouais. Comme si j'étais un nouveau bébé qui pouvait marcher, qui était responsable directement de vivre sa vie dans une ville assez stressante. Donc aussi, quand je voyais du monde, quand il y a du bruit, donc je perds la concentration, j'essaie de me rappeler comment il faut faire pour prendre le bus, etc. Donc c'était tellement fatigant pour moi, et puis aussi c'était difficile aussi psychologiquement, c'est que ça me mène vers la défaite. J'arrive pas à réaliser certains trucs qui sont basiques, cela me retombait un peu sur le moral. Parfois la nuit avant de dormir, moi j'étais un peu toujours fatigué à cause de tout ce que j'ai pu découvrir. J'étais quand même triste, comment ça va se passer, si j'ai perdu vraiment des petits détails comme ça, comment je vais faire pour continuer ma vie. Et je combattais avec ça, tout ça. Ça a changé aussi quelque chose avec ma relation avec Nora. C'est que j'ai senti qu'elle m'a beaucoup soutenu après ma sortie de l'hôpital. Et quand j'ai récupéré mes forces, c'était à moi de la soutenir parce que elle avait trop donné. J'ai essayé d'être plus là pour elle, pour essayer de faire en sorte qu'elle réussisse un peu plus sa carrière professionnelle, ou en tout cas dans sa vie, ou que ce soit l'idée de cuisiner, de nettoyer, ou de laver en tout cas les habits. J'étais un peu plus présent de ce côté-là, parce que c'est elle qui a vécu en fait, les moments en fait, difficiles, au final. Moi, j'étais à l'hôpital, je ne me rappelle pas. Donc j'ai essayé de prouver aussi que j'étais fort maintenant, c'est bon, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. Donc tout ce que j'ai gardé comme souvenir, c'était, elle m'a soutenu du début jusqu'à la fin, donc mon amour envers elle, ça faisait que grandir. Donc tout cela, c'est un drame, c'est quelque chose de grave qui s'est passé, mais d'un autre côté, ça a nourri notre amour ensemble, parce que on avait seulement 2 mois ensemble avant que j'ai mon accident. Après, dans les 2 mois, on n'a pas réussi à complètement se connaître. Donc l'accident, il nous a réunis, il a renforcé notre amour.
وصرت لك غلام وسال دمعي كاسي وصرت لك غلام وبحت بك ناسي.
C'était une histoire d'amour et d'amnésie avec tous les vœux de l'équipe des Pieds sur Terre et les miens en particulier pour cette nouvelle année 2025. Un reportage de Carole Bailly réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Nora, Youssef et à Eva, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien.
Radio France fête ses 50 ans, 50 ans de liberté.
J'ai pas pu m'empêcher. J'ai essayé de respecter le protocole et juste là, c'est trop de violence à un moment.
La violence, c'est un instrument de pouvoir. Et les agresseurs ne tirent profit que pour eux-mêmes. Autour d'eux, ils détruisent.
Or, chacun sait que quelquefois, la raison d'État flirte de très près avec le terrorisme. Alors moi, Joël, ce que je dis, c'est fini la raison d'État.
Je m'aperçois que nous sommes 3 femmes pour défendre une position et 3 messieurs pour défendre la position opposée.
Ça, c'est une incidence.
Ça fait 27 ans que je suis dans le textile. J'ai fait la Somme, j'ai fait la Haute-Saône. Je suis venu en Ardèche et bilan, ben, reviré.
Car aujourd'hui, dans la musique aussi, les datas font dorénavant la loi.
Non,
mais
non,
si.
Mais non.
Vous avez vu qui est très bien fait.
C'est
l'essentiel.
Que tu penses une chose pareille. On n'a pas le droit de faire des films aussi grossiers, aussi vulgaires.
C'est pas un film grossier. À tous